franceinter.fr.
Et oui, on y est. 19h16, bonjour, bonsoir Michel Gourdin.
Bonsoir Laurent,
les
bonsoir à tous.
Les mondiaux d'athlétisme de Londres à la une de ce journal des sports avec des Français présents aujourd'hui lors de leur qualification.
Oui, tout s'est bien passé pour les tricolores en qualification et on va faire tout de suite le point avec nos envoyés spéciaux Vincent Pellegrini et Franck Ballanger. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Mimi.
Alors Vincent Pellegrini, la perche d'abord, Renaud Lalvini s'est rassuré, il ne sera pas le seul en finale mardi soir en plus.
Oui, il a été assez impressionnant ce matin. Premier essai, 5,60 m passé sans encombre. Idem à 5,70 m. Pas d'émotion pour Renaud Lavillenie qui avait été sacré, on s'en souvient, champion olympique ici au Stade Olympique de Londres il y a 5 ans. Pour lui, c'était vraiment un concours idéal. Écoutez-le.
Je suis qualifié sans échec. J'ai plutôt bien sauté. Donc après, ça veut tout et rien dire. C'est sûr que c'est évidemment plus intéressant de faire pas d'échec, du coup, de pas avoir de coup de pression avant la finale. Mais peu importe la manière dans laquelle on se qualifie, le but, c'est d'être en finale, d'être parmi les 12. Et puis après, le lendemain ou sur le lendemain, la compétition est complètement différente. Faire quelque chose comme ça, pour moi, c'est super. Je suis très content de pouvoir accéder à une finale supplémentaire. Et puis après, maintenant, de pouvoir me lâcher pour tout donner, quoi.
Et il y aura mardi soir, Michel, un autre Français en finale de ce concours de la perche, le jeune Axel Chapelle, 22 ans, qui a passé également 5,70 m ce matin.
Alors Vincent, autre satisfaction aujourd'hui, c'est le 3000 m steeple. Là aussi, deux tricolores en finale.
Les deux Français engagés, Mayedine Mekissi, a parfaitement géré sa série. Il a terminé deuxième et il sera l'un des candidats au podium mardi soir. Et puis, autre Français qualifié, Johan Koval, qui a terminé troisième de sa série. Lui aussi, on le retrouvera mardi soir.
Alors, on projette déjà sur le programme de la soirée. Vincent, il y aura les demi du 800 avec un certain Pierre-Ambroise Boss, avec des chances de qualification et surtout, on l'espère, plus loin sur le podium. Les demi du 100 mètres et puis la fin de l'heptathlon où là c'est un peu moins bien.
Oui, Antoinette Nanadjimou n'est que 14e avant les deux dernières épreuves. Elle n'a pas été au sommet de sa forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le début de cet heptathlon, les chances de médaille sont bien évidemment très loin désormais. Les demi-finales du 110 mètres et 1, Garfield Darien a peut-être une carte à jouer dans cette discipline. Il a très bien couru en série ce matin. Il courra sa demi-finale tout à l'heure. Et puis, vous le disiez, Pierre-Ambroise Boss qui cherchera à terminer dans les deux premiers de sa demi-finale pour se qualifier directement pour la finale. Pierre-Ambroise Boss à suivre à 22h30.
Juste un mot peut-être sur la finale également, très attendue, le 100 mètres, et on va reparler de la Jamaïque, chez les dames cette fois.
Ouais, la grande favorite, hein, Elaine Thompson, championne olympique du 100 et du 200 à Rio l'an dernier, et puis son duel très attendu avec l'américaine Tori Bowie et la néerlandaise Daphne Skippers.
Alors Franck Ballanger, avec vous, on revient bien sûr sur l'événement d'hier soir, la défaite d'Usain Bolt, seulement 3e du 100 mètres. Est-ce que l'onde de choc provoquée par la défaite du Jamaïcain battu par l'américain Gatlin est retombé aujourd'hui à Londres.
À votre avis, Michel ?
Non.
Non, pas du tout, hein, vraiment pas. Honnêtement, on ne parle que de cela. Hein. La une des journaux, c'est Usain Bolt battu dans les bras de Justin Gatlin. À la radio, la BBC ne parle que de cela. Dans les réseaux sociaux, dans les conversations aussi dans le métro, on ne parle que de cette défaite. Vraiment, l'onde de choc, elle est énorme parce que, bizarrement, hein, après malgré tout une saison ratée de Usain Bolt, tout le monde pensait que, comme d'habitude, le Jamaïcain allait s'imposer. Cela n'a pas été le cas et ça a vraiment marqué les esprits. Maintenant, les gens ne pensent qu'à une chose, c'est le voir samedi dès les séries. Hein, ce sera une première dès les séries avec le relais jamaïcain pour le voir quand même terminer avec une médaille d'or autour du cou.
Alors, cette victoire de Justin Gatlin, c'est la victoire du vilain petit canard et qui interpelle du coup fortement le monde de l'athlétisme.
Ben écoutez, si vous aviez vu la tête des gens de l'IDESAF, la Fédération Internationale, qui sont juste devant nous, hein. Hier, après la victoire de Gatlin, quand ils ont vu le nom de l'Américain sur le tableau, tout le monde se prenait la tête. C'est une catastrophe pour la Fédération Internationale. Avant le règne de Usain Bolt, eh bien, Justin Gatlin était champion olympique à Athènes. Il était double champion du monde en 2005 à Helsinki. Aujourd'hui, eh bien, Usain Bolt va mettre un terme à sa carrière. Et qui pour lui succéder ? Eh bien, Justin Gatlin encore lui, sauf qu'entre-temps, il a été suspendu 4 ans pour dopage. Il est effectivement devenu le vilain petit canard. Il a été hué hier à son entrée dans le stade et également après sa victoire. Usain Bolt, lui, a tenu à calmer les choses, hein, Michel. Il a dit, bah, écoutez, puisqu'il est autorisé à courir, lui, il fait son métier. Donc voilà, je le félicite. Il a sans doute mérité sa victoire. Bolt a été grand seigneur. Gatlin lui a également rendu hommage. Il a dit que même s'il l'avait emporté, c'était malgré tout sa nuit à lui, la nuit de Bolt, sa dernière sur la piste. Donc voilà, entre les deux hommes, ça se passe bien, entre le public et Justin Gatlin, beaucoup moins, Michel.
Merci Franck Ballanger, merci Vincent Pellegrini, tous deux en direct des Mondiaux d'athlétisme de Londres.
Le football, Michel, avec la suite et presque la fin de la première journée de Ligue 1.
Et Angers et Bordeaux viennent de se séparer sur un score nul, 2-2. Angers a égalisé à seulement 2 minutes de la fin du temps réglementaire. En début d'après-midi, Lille a battu Nantes 3-0. But en deuxième période de Alonso, Depréville et El Ghazi. Première réussite donc pour Marcelo Bielsa, le nouvel entraîneur nordiste.
Nous avons joué avec beaucoup de dynamisme. Nous avons eu un rythme de jeu très élevé. Nous n'avons commis que très peu de fautes. Notre gardien a été un véritable pilier pour l'équipe. Nous méritons les buts que nous avons marqués. Et je pense que le résultat, cette différence est juste. Alors, nous verrons au fil du championnat s'il est possible de maintenir ce rythme et cette vitesse de jeu que nous avons eu aujourd'hui, qui laisse un bon arrière-goût dans la bouche. Mais maintenant, il faut voir s'il va être possible de maintenir cela tout au fil du reste du championnat.
Marcelo Bielsa avec Antoine Martin ce soir en clôture de cette première journée à 21h. Marseille reçoit Dijon. Au bénéfice de son succès 4-0 face au promu Strasbourg et en attendant l'OM, Lyon est le premier leader de la saison, mais c'est bien sûr le PSG qui a marqué cette ouverture de championnat. Un succès 2-0 hier face à Amiens, le tout sous les yeux de Neymar. Le Brésilien a été accueilli en grande pompe au Parc des Princes. Ses débuts sur la pelouse sont prévus dimanche prochain à Guingamp. Prévu, mais pas sûr, car Fanny Lechevestrier, il reste des formalités administratives à régler.
Pour le moment, tout le monde annonce ses grands débuts au stade du Roudourou dimanche prochain à Guingamp, mais dans les faits, rien n'est moins sûr. Hier, ni la Ligue ni le Paris Saint-Germain n'avaient encore trouvé trace du fameux CIT, le certificat international de transfert, obligatoire pour homologuer le contrat du Brésilien à Paris. Or, ce document doit être délivré par la Fédération espagnole après accord du club quitté par le joueur, en l'occurrence dans le cas de Neymar par le FC Barcelone. En règle générale, et comme le veut le bon usage entre les clubs et les fédérations, le bon de sortie est établie dans les 24 heures suivant la signature du contrat. Impossible donc de ne pas voir dans ce retard une mauvaise volonté des autorités ibériques et du club catalan, visiblement toujours vexé d'avoir dû laisser filer l'une de leurs stars. La suite, la Fédération espagnole, qui a reçu une demande jeudi soir, a 7 jours pour se plier à la procédure, a expliqué hier Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel. Faute de réponse, c'est la FIFA, l'instance internationale, qui sera appelée à se saisir du dossier, mais son action ne sera pas forcément immédiate et pourrait donc encore faire perdre quelques jours précieux à l'attaquant. Hier, Neymar ne cachait pourtant pas son impatience d'enfin pouvoir rejouer au football, que ce soit au Parc des Princes ou au Roudourou.
Neymar arrivé à Paris, il reste un autre dossier qui va secouer dans les prochains jours le football européen, c'est celui de Kylian Mbappé. La pépite monégasque va-t-elle rester sur le rocher ? La question est posée. Dominique Poulain, l'avenir du jeune international français reste très flou.
Titulaire vendredi contre Toulouse pour la reprise de la Ligue 1, Kylian Mbappé ne s'est pas exprimé à l'issue de la rencontre. Mais Vadim Vassiliev, le vice-président de l'AS Monaco, lui a pris la parole, visiblement agacé par les rumeurs concernant son joueur.
Contrairement à ce que j'ai vu dans la presse, il n'a jamais exprimé sa volonté de partir, jamais.
Pourtant, la prolongation de contrat tarde à venir. Kylian Mbappé n'est pas encore convaincu par la compétitivité de son équipe après le départ de plusieurs cadres et la direction monégasque rechigne à accepter les conditions salariale du joueur de l'ordre de 700 000 euros net par mois. Vadim Vassiliev doit se faire à l'idée que l'hypothèse d'un départ n'est plus à exclure.
Nous sommes toujours en discussion. C'est pas une question d'argent, c'est plus compliqué. Il faut que le joueur se positionne, mais c'est plutôt sur le projet sportif. Si vous me demandez, bien sûr, j'aimerais le garder, mais après, il est sollicité, donc il faut qu'il prenne la bonne décision.
Aujourd'hui, Kylian Mbappé entretient un peu plus le flou en postant sur Twitter, lors d'une opération commerciale, une photo prise en compagnie de Leroy Sané, le milieu de terrain de Manchester City. Une photo qui fait jaser quand on connaît l'intérêt que porte Pep Guardiola, l'entraîneur de City, au jeune attaquant. Monaco, Dominique Poulain, France Inter.
Et Monaco, pour rappel, le champion de France sortant qui s'est imposé vendredi soir en ouverture du championnat. 3-2, c'était face à Toulouse. Les Néerlandaises sont championnes d'Europe. Devant leur public, elles s'imposent 4-2 face au Danemark. C'est un premier titre pour les Pays-Bas en football féminin. Et puis en Angleterre, Arsenal remporte le Community Shield qui marque l'ouverture de la saison. Un succès au tir au but face à Chelsea. 1-1 à la fin du temps réglementaire.
La formule, c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'équipe de France de basket a débuté sa préparation en vue de l'Euro qui débute donc à la fin du mois.
Et cette préparation, les Bleus l'ont débutée par un succès. C'était hier face à la Tunisie, 67-53. Cette semaine, ils enchaîneront à Orléans avec des rencontres face à la Croatie et la Lituanie. Titrée en 2013, troisième il y a 2 ans, l'équipe de France ouvre cet Euro avec une nouvelle page de son histoire. Tony Parker, vous venez de l'évoquer, il n'est plus là. Il a pris sa retraite internationale. Mais le potentiel français reste énorme. Les tricolores continuent de faire le bonheur de la fameuse NBA, le championnat américain. Bref, Elliott Will, la relève est assurée.
Les Bleus et la NBA, une histoire d'amour initiée par Tariq Abdul-Wahad en 1997. 20 ans plus tard, ils sont 24 à y être passés. 20 ans plus tard, Frank Ntilikina devient le français le plus haut drafté. Une sélection historique en 8e position, signe de la bonne santé du basket tricolore pour l'international Nicolas Batum.
Encore un, ça montre la réussite de la formation en France. Il y a quasiment un Français maintenant qui atterrit en NBA chaque année ou qui se fait drafter pour jouer en NBA. Ça marche pas qu'en NBA aussi. On voit tous les joueurs français qui signent dans des gros clubs en Europe. C'est vrai que maintenant, on est représenté un peu partout.
La saison qui arrive verra 11 Français évoluer sur les parquets américains et autant dans les grands championnats européens. Le président de la Ligue nationale de basketball, Alain Béral, est heureux de voir un tel niveau et compte sur ses joueurs expatriés pour faire encore progresser le basket tricolore. Alain Béral.
On les regarde partir avec un peu de frustration, mais quand ils partent aux États-Unis, beaucoup de fierté. On travaille avec eux pour que justement ils reviennent nous aider et nous aider justement à aller plus haut et plus fort avec eux.
Aller plus haut et être plus fort, c'est possible car la France possède l'une de ses plus belles générations. À l'heure où Tony Parker prend sa retraite, on aurait pu penser que la sélection tricolore vivrait des années difficiles. Il n'en est rien, le futur des Bleus est assuré.
Et puis Michel, les Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est devenu une réalité.
Oui, c'était cette semaine et la confirmation officielle, ce sera le 13 septembre à Lima. Il y a tout juste un an, on parle toujours des Jeux s'ouvraient, ces fameux Jeux Olympiques, c'était à Rio. Aujourd'hui, 12 mois après, la fête n'est plus qu'un souvenir et surtout ce qui reste, c'est une facture salée que les Brésiliens ne sont pas prêts d'oublier. À Rio, Anne Vigna.
Il est malvenu de parler aux habitants de Rio de l'héritage des Jeux Olympiques. Diogo, rencontré devant le stade Maracana, ne décolère pas quand il voit l'état de son stade préféré.
C'est devenu un éléphant blanc ici, tu comprends? C'est abandonné, ce n'est plus nettoyé, et il y a plein d'usagers de drogue qui rentrent à l'intérieur pour voler.
La plupart des installations olympiques sont en effet fermées et sans repreneur. Pourtant, l'ancien maire de Rio, Eduardo Paes, avait promis tout le contraire.
On a sans cesse cherché des alternatives pour éviter de construire des éléphants blancs. On va faire des bâtiments très beaux, mais qui ne seront pas un hommage au gaspillage de l'argent public.
Aujourd'hui, pour les experts, il y a bien eu un grand gaspillage d'argent public sans aucun contrôle, comme l'explique Sandra Quintela, économiste pour l'Institut de politique alternative du CONSUD.
Je crois que les Jeux Olympiques à Rio vont servir pour montrer au monde ce qu'il ne faut pas faire pour organiser des JO. Il n'y a pas eu de planification, aucune participation de la société et pas du tout de transparence sur les dépenses publiques. Aujourd'hui encore, on ne sait pas avec exactitude combien on a dépensé pour ces Jeux.
La facture de ces Jeux se montrait à 14 milliards d'euros. Et pour les Cariocas, le principal héritage de ces Jeux est une dette à payer pendant de nombreuses années. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
Alors évidemment, Laurent, pas de comparaison bien sûr avec Paris. Le budget 2024 est bouclé et sera sans mauvaise surprise, affirme le comité d'organisation.
C'était le Journal des Sports. Merci Michel Gourdin.